Salut Manu.
Salut Thor.
Notre invité du mois, c'est Manu Lanvin, qui nous présente un nouvel album.
Un album hommage à ouais. Kevin Russell, qui est un artiste que j'ai connu, que j'ai accompagné, et puis qui a accompagné aussi le lecteur CD ou la platine vinyle ouais. de beaucoup de gens qui aiment le blues, le rock, le folk et le songwriting. Je pense que c'est un personnage qui est devenu un peu inévitable en France lorsqu'on s'intéresse à la musique voilà, d'inspiration, oui, blues, rock et à la belle écriture. Et j'avais envie de lui rendre hommage.
Et vous connaissiez personnellement, c'est ça?
J'ai enregistré son dernier album studio, The Guide Dog, et puis on a fait un petit bout de chemin ensemble.
Okay.
Je l'ai accompagné sur scène. J'ai été son dernier band, en fait.
D'accord.
Mais on était avant tout, il y a une histoire d'amitié qui s'est nouée entre nous. Et,
okay.
et il était temps, je trouve, de refaire un peu lumière sur ce personnage très apprécié. D'ailleurs, on a fait un hommage à La Traverse, une salle en Normandie, et le concert a été sold out en l'espace de deux jours. Donc,
oui.
C'est une personnalité qui est encore très aimé okay. En France.
Et ce qui est étonnant avec Kevin Russell, c'est que c'est un succès, enfin c'est une musique très américaine,
ouais.
et c'est que c'est un succès totalement français quoi.
C'est vrai, il fait partie, c'est un peu comme Papa Chubby. Papa Chubby disait l'autre jour, me disait, on est des exilés en fait.
Ouais.
On a été les exilés des États-Unis. Et on a trouvé refuge et on a trouvé en tout cas de l'amour, nous qui avons juste envie d'aller vers les autres. On a trouvé de l'amour en Europe et c'est vrai que Ted, Papa Chubby est très connu en Europe, il a été même plusieurs fois disque d'or, comme l'a été Kevin Russell, hein.
Ouais.
Il a été aussi plusieurs fois disque d'or à une époque où il fallait en vendre des disques en plus pour
ouais.
un disque d'or. Et une personnalité que les gens aimaient, alors est-ce que c'est leur look? Est-ce que c'est leur voix? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup comme ça aux États-Unis. Me confiait aussi Ted, avec qui je discute souvent, un peu Papa Chubby, me disait, je pense que les Français, les Latins sont sensibles à cette forme d'authenticité. Et je pense que Kevin Russell, ça le définit plutôt bien.
L'authenticité, c'est un... ouais, oui, c'est déjà, voilà, il est marqué, il est songwriter, vraiment.
Et ce qui est étonnant pour ce mec-là, et comme quoi, vraiment, si ça peut parler à vos lecteurs, c'est un artiste qui s'est découvert et qui a été découvert sur le tard, finalement.
Il avait quel âge en début de carrière?
36,
en
40
fait.
Ans, ouais, tu ouais. vois. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui d'un seul coup se découvrent une envie, une passion pour l'écriture, pour la guitare, qu'il n'est jamais trop tard. C'est sûr que pour devenir un virtuose, il vaut mieux commencer tôt. Mais Kevin Russell faisait pas partie de ces virtuoses. C'est juste quelqu'un qui avait des jolies chansons et qui avait une manière de les mettre en forme assez intéressante.
Et justement, toi, dans ta musique, dans tes autres albums, t'as cette influence Kevin Russell?
Moi, je pense qu'elle est assez marquée parce
ouais.
que les gens qui ont bien connu le répertoire de Kevin Russell m'en font souvent la remarque, et surtout sur le premier album du Devil Blues, Mauvais Casting, où il y avait encore un peu de français mais beaucoup d'anglais. Dans le son, d'ailleurs, le son de Dog Eat Dog, qui est le dernier album de Kevin Russell, est quand même très très proche de la signature des albums du Devil Blues, hein, qui est ma formation. Parce que, avec Nico Bonnière, qui est un super guitariste, un super producteur avec qui je travaille, on a essayé de travailler un son. Alors, je sais pas si c'est le son Made in la chocolaterie. Mais on a une manière comme ça de travailler dans le choix des instruments.
Pour faire une petite parenthèse, ici on est à la chocolaterie
ouais, ouais.
et donc c'est ton studio.
Exactement.
Et tu nous as dit la chocolaterie, on s'est imaginé que c'est une ancienne chocolaterie. Mais...
Ça aurait pu, j'aurais pu mentir d'ailleurs, dire pour créer un mythe.
Ouais.
C'est pas une chocolaterie, mais ça faisait référence juste à une publicité de Salvador Dali qui me hantait lorsque j'étais petit, lorsque je voyais dire je suis fou du chocolat lambain.
Du coup, tu croyais que Dali s'adressait à ta famille.
À moi, exactement. Tu sais, on fait de la musique, on produit des choses qui nous plaisent, dans l'espoir que ça plaise aux autres. On est des privilégiés de faire ce genre de métier, donc je veux que tout ça reste sans prise de tête et très ludique. Et je trouve que la chocolaterie va bien à ce lieu.
Et justement, pour revenir à l'album aussi, le principe, c'est qu'il y a un invité par morceau.
Plus ou moins, j'aurais pu...
Oui, il y en a quelques-uns où tu les fais,
ouais,
où c'est toi.
J'aurais pu faire un album hommage, entre guillemets, Manu Lanvin chante Kevin Russell, mais je voulais faire un hommage et je trouve que plus beau est l'hommage, plus il y a d'artistes qui lui rendent hommage. Ça m'a permis aussi de créer des choses, parce que j'ai des artistes comme Théo Charaf qui connaissaient pas
ouais.
ou peu Kevin Russell.
Ouais.
Je pense aussi à Craig Walker qui connaissait pas Kevin Russell. Et en fait, c'était intéressant que ça soit aussi un album de transmission.
Ouais.
Puisque si on revisite finalement le répertoire d'un artiste, c'est bien que ça soit un peu intragénérationnel, qu'il n'y ait pas que ceux qui sont un peu dans l'ADN naturel de Kevin Russell. Alors bien évidemment, on a Beverly Joe Scott, on a Papa Chubby.
Oui, mais Papa Chubby, c'est vraiment le
voilà.
morceau le plus rock'n'roll, on a un peu l'ADN de chaque artiste. Exactement. Et comment ils s'identifient par rapport à cette musique-là, quoi.
Mais disons qu'on est dans des artistes qui se connaissent, qui sont un peu issus de la même génération, dans les années 80-90, Papa Chubby, il a débarqué ici, Kevin Russell a débarqué ici, Beverly Scott tournait beaucoup, alors c'était normal de les avoir, ça rendait légitime le fait qu'ils rendent hommage. Même si je n'avais pu ne pas chanter du tout sur cet album, ça allait pour moi. C'était un album où j'avais juste envie de faire lumière sur une partie de son répertoire. Je voulais pas m'afficher plus que ça sur cet album.
Ok, et c'est né comment en fait? C'est au fur et à mesure, en parlant à certains artistes
Il y a eu un concert déterminant, un concert à la Traverse, qui est une salle où passent des super artistes, les artistes de la scène rock blues internationale. Quand ils viennent en France, souvent ils sont programmés, il y a une très bonne programmation, on va dire une programmation dans ce style musical-là à la Traverse, et ils m'ont demandé si j'accepterais de faire un concert hommage à Kevin Russell. J'ai accepté de le faire, j'ai invité quelques Américains qui traînent en France, comme Neil Black, il y avait Janet Martin qui était l'artiste américaine qui était par là, j'ai appelé David Mister, le beau-frère de Calvin, et on a rendu hommage au mec qu'on aimait, à notre pote, et ce concert, lorsqu'on a mis en vente, les billets sont partis en l'espace de 2 jours. C'était une soirée très très émotionnelle.
Parce qu'avec tout le succès de Kevin Russell, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un événement Kevin Russell.
En fait, il n'y en avait même eu aucun. Il n'y a aucun hommage qui a été fait.
Et de voir que le public était toujours là et toujours prêt à dire toujours on est là, quoi.
Et alors, ils étaient là, mais en plus, il s'est dégagé une très belle émotion de ce concert-là. Donc, je me suis rendu compte à quel point il était encore inscrit dans le cœur des gens. C'était très très émotionnel et je me suis dit, pourquoi ne pas poursuivre ce qu'on a fait? D'ailleurs, on n'avait pas enregistré le concert. Non, je voulais pas qu'on enregistre parce que je voulais pas avoir de pression par rapport à ça.
Et du coup, les enregistrements ensuite, ça a été ici à la Chocolaterie.
Alors, toutes les rythmiques, moi j'ai fait toutes les bases rythmiques en ne me plantant pas trop sur les tonalités des chanteurs que je prédisposais, que j'envisageais sur les.
C'est-à-dire qu'il y a eu des allers-retours un peu de genre.
Il n'y en a eu aucun parce que je me suis pas planté.
Ok.
Sur Beverly, ça a été un peu plus complexe, mais en fait, ça l'a pas été. J'avais anticipé, je voulais absolument une femme sur Crossroads. Mmh. Et effectivement, les tessitures d'hommes et de femmes sont parfois différentes, mais je sais les anticiper. J'ai fait plusieurs tonalités, on a enregistré tout, donc dans le Perche, dans le studio de mon bassiste, qui est un très grand endroit dans lequel on a pu se poser, et comme on était un peu chaud du concert à la Traverse, ça a été très simple pour nous de refaire rythmiquement et de trouver des directions pour les morceaux. On a un peu plus peaufiné, le concert était plus
bruit de préparé le tapis pour les invités, après ils sont arrivés, d'accord.
Exactement, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans l'idée de reprise, c'est de s'approprier aussi les choses.
Oui, et ce qui est intéressant aussi des fois, c'est le fait de changer de tonalité, ça oblige à tu redécouvres le morceau différemment.
Bien
quoi.
Sûr.
Parlons guitare. Par quoi on commence?
On n'a qu'à commencer par, on va dire, un des plus grands classiques de Calvin, Soldier. Et en plus, ça s'adresse à des débutants, j'ai envie de dire. C'est vraiment un truc facile à jouer. En tout cas, on peut s'y exercer. On n'a pas besoin d'avoir des années de pratique pour le faire. Et je trouve que ce morceau démontre une chose, c'est qu'avec des accords très simples, tu vois, on est La mineur, Fa, Sol, La mineur. Et je crois que le titre fonctionne qu'avec ces trois titres. C'est la mélodie qui fait le travail. Mais par contre, avec des accords simples, on peut arriver à trouver une sorte de signature.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est la signature du morceau.
C'est très guitaristique, ça tombe sous les doigts, hein, c'est vraiment...
Tu imagines même, à mon avis, qu'il a dû les grainer, tu vois, en étant sur un canapé, comme ici, c'est le truc que tu ferais, même, tu vois, je l'ai joué avec le médiateur, mais même pas, tu vois. C'est vraiment un truc qui...
Le principe est simple, c'est d'avoir une ligne mélodique qui reste la même suivant les accords, et du coup ça fait un genre d'ostinato, un contre-champ, du coup ça, c'est très complet avec peu de choses.
Et en plus on peut construire une chanson entièrement comme ça, parce que tu restes sur les mêmes accords, bon on n'est pas dans un blues, mais c'est ce qu'on retrouve dans le blues.
C'est-à-dire
que si tu dévoiles pas ce contre-champ, tu peux ensuite enquiller sur les mêmes accords, avec la même cadence, et les mêmes successions d'accords, tu vois le couplet, on y est quoi.
Très bien.
I'm just a person. And I don't claim no country. Bon là je fais quelques petits feux, tu vois. I don't need a fly.
Voilà, oui.
To say who I am. Et dès qu'on venir. Hein, Kevin Russell, on a fait plein des titres comme ça. Crossroads, on n'est pas très loin non plus.
Je note aussi quand même le truc qui est pour moi très un peu country mineur, lent. C'est le...
Quand t'as le. Ah là, ouais. Voilà.
Okay. Même un peu Nayang, tu vois. Genre.
Exactement. C'est très simple à jouer. Je pense que un débutant, allez, en 2-3 heures de pratique, il peut chantonner la
c'est,
chanson.
C'est typiquement le truc de songwriter.
Exactement. Ouais,
on a tout avec le chant et la guitare. Et je ne sais si le petit.
Ouais.
Enfin, c'est, voilà, pareil. C'est.
Le tuba. Ouais. Exactement.
Et toi, du coup, tu utilises la position de fa.
Ouais, comme. Bah, parce que ça nous laisse une corde à vide, quoi. Bien évidemment, je pense, c'est bien d'ailleurs d'aller sur du Kevin Russell parce que je pense que ça peut parler au on va dire aux premières, deuxième, troisième année de guitare. C'est sûr qu'on nous apprend le fa très comme ça.
Alors, c'est sûr que le baril qui fait mal, du coup.
Mais c'est souvent bien aussi de libérer de venir enrichir ses accords. Il n'y a pas de règle en musique. Hein.
Et du coup, sur la version de l'album. Ce qui est intéressant, c'est qu'Axel Bauer, il la chante en français.
Ouais,
et
exactement.
Du coup, moi, j'avais jamais. Il y avait des subtilités du texte que j'avais pas. Je trouve que ça ressemble finalement aussi un peu l'univers Axel Bauer. Ça fait morceau pop aussi, balade lente.
On peut aller sur un autre classique qu'on a repris sur l'album Hommage, c'est David Mister qui le chante, qui est Behind the Hate Ball. C'est un riff simple, j'ai envie de dire que les jeunes guitaristes peuvent s'y essayer. C'est la base du riff et du
play.
Il y a un peu de stretching quand même, hein. Quand on arrive sur le sol.
Et puis c'est vraiment les trucs de guitare, enfin mi majeur, on a. C'est ça aussi qui est bien. En t'accompagnant aussi, on peut avoir. Ouais, on peut l'ouvrir comme ça et c'est très solaire
bien
comme
sûr.
Quoi.
C'est très majeur. On est encore dans la même formule d'écriture parce que c'est bien de maîtriser, enfin de s'intéresser à son instrument, mais c'est bien aussi de voir ce qu'on peut en faire et écrire des chansons avec des motifs comme ça, c'est jouable. T'as vu, on est encore dans la même progression harmonique entre le riff principal et le couplet, le concept. I was born behind the headball, note mi majeur. Sol, down, the head fall. La, down, 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 down. Il déroule son texte, c'est bien. Et puis quand il veut reprendre le riff, ouais, on est même successeur harmonique.
Et c'est vrai qu'en fait, oui, on reste tout le long sur les trois accords. Il y a juste un moment, je crois, on reste un peu plus longtemps sur le la. Mais
oui,
c'est pour relancer un peu le truc, quoi.
C'est presque un effet live, quoi.
Oui, c'est ça.
Un producteur, on aurait pu le couper.
On entend le roulement de batterie, quoi.
C'est ça. Vas-y, un peu de tournoi. Ça chez Johnny Hooker aussi,
bien sûr.
Qui utilise ça peut-être plus lentement. Je pense à Boogie at the Russian Hill. Il y avait un truc comme ça. Moi, j'adore ces formules hypnotiques. C'est ce qui fait d'ailleurs la couleur de mon groupe, le Deep Blues. On exploite ça à fond. On trouve une formule comme ça qui devient enivrante et hypnotique et on la lâche
et
pas.
Il y a ce truc de moins on a d'accord, plus l'accord fait de l'effet.
C'est vrai.
Et il y a vraiment ce truc de genre on reste sur le premier degré, donc on dit comme ça pendant hyper longtemps. Donc du coup, ça fait déjà une sorte de transe.
Ouais, c'est ça.
Et quand on passe sur le 4, c'est genre.
C'est ça. Alors là, ça va être un peu plus corsé. Pourquoi c'est plus corsé? Parce que je me suis compliqué la vie à reprendre un morceau qui était très simple de Calvin, qui est Time Flies. I want something to believe in, where the thing don't last. Alors ça c'est la version, c'est la base du morceau de Calvin. On est encore dans un truc très acoustique. On est dans des accords très simples, hein. Sol, Do, tu vois, c'est vraiment basique. Alors moi là j'y mets déjà des fioritures mais qui n'existent pas avant. Dans du folk song, des trucs très basiques, et même quand on l'a joué, on l'a un peu passé comme ça, on n'est pas trop parti du truc. Quand on a produit l'album, Nico Bonnier m'a dit: Manu, ça serait quand même pas mal qu'on y ramène un peu de soul, la soul de Memphis, un peu d'Otis Redding là-dedans, et on s'est dit, Neil Black a une voix très basse, et justement, on voulait pas tomber trop dans la copie, parce que Neil Black qui chante Calvin, on n'est pas loin du tout dans le registre vocal, parce qu'ils ont vraiment la même tessiture vocale. Et on s'est dit, si on refait trop l'arrangement de Calvin, avec Neil Black, on va être dans une sorte de plagiat pas très intéressant. Et il m'a dit: démerde-toi, trouve-moi un truc qui fasse un peu soul. Vous connaissez tous ce morceau de... Alors voilà, il m'a dit: démerde-toi, essaye de me ramener un peu de ça dans le... Je me suis un peu cassé la tête et j'ai dit: on peut peut-être le faire tourner comme ça.
Ce fameux truc des petites sixtes là, genre pour ceux qui ne connaissent pas.
Ah oui.
Voilà.
C'est ça que c'est le truc que j'aime bien faire.
On peut faire exactement la même.
Ouais. Ici.
Après avec la folk ça commence
ouais,
à.
Ça
on peut aller le chercher.
Déjà ici. C'est chaud d'aller. Ouais.
Mais c'est vrai que tu vois le premier morceau on a vraiment les trucs où on apprend à faire des petites fioritures ouais. avec un la mineur.
Ouais.
Bah là on
ouais.
peut se dire bon là l'étape 2 c'est tu prends ton do majeur et puis tu.
Ouais.
Tu vois y a vraiment.
Quand je me balade sur manche, hein, j'avoue, à un moment donné, tu trouves des trucs. Parce que moi, je suis pas un virtuose, hein, j'ai des combines. Comme tous les bluesmen, on a des combines. Hein. Cette histoire de position, tu vas peut-être la décoder mieux que moi. On se balade sur ce morceau. Comment t'appelles ce genre de position d'accord?
Bah, ça, c'est fondamental, hein. C'est vraiment le.
Dès que tu as ça, tu sais que tu peux aller.
Voilà, exactement.
Et bah, ça, c'est
par exemple,
une combine.
En étant en blues où c'est que les accords majeurs,
ouais, hein,
tu peux l'utiliser sur les trois accords, il n'y a pas de problème,
ouais.
ça marche.
Ouais. Mais c'est pour mineur.
Et en mineur aussi, ouais. Ah,
il y a aussi cette histoire de descente.
Ouais.
Et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on a une sorte de descente chromatique, alors on revient sur l'accord de base dans le troisième. Ah oui. Time flies. Ça c'est Popa Chubby qui le chante sur l'album. On n'a pas beaucoup changé le riff de basse qui est le riff de basse de Calvin qui donc Voilà, ça c'est intéressant à faire. En tout cas, nous on s'éclate à jouer sur scène. Ouais. Les riffs les plus simples sont souvent les meilleurs. Toujours faire attention aussi de comment sont placés. Ça peut paraître simple, mais comment sont placés les accents, si ça tombe sur le temps ou en l'air. Ou lorsqu'on est en studio, on se rend compte souvent que la basse, la guitare et le batteur font pas forcément la même chose. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est bien souvent de reposer les choses. Ça, si batteur, bassiste et guitariste se font bien ensemble, ça prend tout de suite un autre poids.
C'est ça qui fait le son power trio, quoi.
Exactement.
Faut les marquer, quoi. Ouais.
C'est comme une chorégraphie. J'ai toujours remarqué que les chorégraphes américains ou les danseurs aux États-Unis, ils faisaient des choses beaucoup moins
complexes,
exactement. Mais par contre, ils ont cette facilité-là à être synchro. La synchronisation donne un effet de masse et une force. Et souvent, je travaille avec pas mal de musiciens new-yorkais en ce moment, et je me rends compte que quand tu analyses un peu tout ça, ils n'ont pas une manière très compliquée de jouer, mais en fait, ça joue par contre, ils sont tous au service de l'autre. Et je pense qu'en groupe, c'est pour moi la clé, c'est de beaucoup s'écouter. Pour moi, les placements rythmiques sont des choses à temps en temps à remettre bien au clair avec son band. Et pour en venir à ça, je ne sais pas comment Popa Chubby l'a rejoué, parce que moi, sur la base rythmique que j'ai envoyée, Popa Chubby était à New York, donc il a enregistré sa guitare et sa voix dans son studio.
Okay.
Mais j'arrive pas, et peut-être que tu arriveras à le décoder plus que moi, c'est que moi, effectivement, je le prends le riff principal. Et peut-être que je me prends trop la tête, peut-être que lui... Mais le mélange des deux, peut-être que le mélange des deux le fait.
Avec deux guitares, ouais. Parce que là on a quand même le son des quintes, quoi.
Regarde, je sais pas, faisons l'un des deux. Tu vois que ça marche.
Oui, bien sûr.
C'est des petites combines qui sont bien de communiquer ou de conforter les choix que prennent souvent les jeunes guitaristes ou les jeunes groupes quand il y a deux guitaristes, justement. Ne pas forcément faire la même chose, c'est trouver un renversement ou jouer dans un autre endroit sur le manche. C'est ça aussi tes complémentarités qui font que...
C'est super intéressant de se dire on a le même riff, on entend un riff, mais par contre, en fait, oui, il y a l'un qui va utiliser cette position-là, là, et ça va vraiment faire le son du groupe costaud, quoi.
Exactement.
Jouer vraiment la même chose, ouais.
Alors moi, j'aimerais rendre à César ce qui est à César sur ce dernier, parce que Guitar Part, il y a très longtemps, ont relevé un riff que j'ai écrit pour Calvin Russell sur l'album Dog Eat Dog, et qui est justement Dog Eat Dog. Et c'est génial, mais c'est pas grave, c'est drôle, c'est que quand j'ai vu la transcription sur Guitar Part de comment était Dog Eat Dog, le mec est persuadé que c'était en drop D le riff que je faisais, alors qu'absolument pas. En même temps, who care, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à faire finalement. C'est pour ça qu'il faut pas avoir de complexe de temps en temps à prendre le riff de quelqu'un d'autre, de le prendre différemment, si tu sens que ça correspond mieux dans tes mains, différemment.
Est-ce qu'il y a au moins des ré à vide?
Parce que là, je sais pas.
C'est pas en gros, c'est pas là.
Ça, c'est sûr que ça se joue avec normalement un gros son de guitare électrique, mais là on a la guitare sèche, c'est moins, mais même en ça... Moi je joue en accord et avec on va dire ce que t'entends de plus, c'est ce, enfin, comment je passe les notes basses, tu vois. Je fais en main. Ah. Et on prend les
ça sonne gros son, même avec
la foule. Ah bon, c'est vrai.
Mais c'est vrai que même au-delà de l'instrument, c'est le truc intéressant à bosser en groupe, ça. Quoi,
ouais,
de,
carrément.
De se poser, de dire, attends, comment on marque le truc, où est-ce qu'on met la pêche, où est-ce que... Et tu veux dire que du coup, sur la...
Doggy Dog, c'est un super morceau. Écoutez, sur l'album Doggy Dog, ce morceau, il est génial. Et c'est intéressant aussi ces constructions où t'as un riff qui est très marqué et t'entends revenir sur des choses beaucoup plus ouvertes et plus... Il y a un peu plus d'harmonie. Et... Mais ça nous plaît beaucoup. Dans l'album Doggy Dog, il y avait beaucoup de choses comme ça.
Merci beaucoup, Manu, pour... Pour ton accueil et puis pour nous avoir montré tout ça, j'espère que ça vous plaira, les riffs, que vous aurez de quoi manger avec ça. Quelle actualité du coup avec cet album ?
Bah, cet album sort éminemment, il est sorti on va dire, c'est comme s'il était déjà sorti et on va tourner un peu avec, on a quelques gros festivals qui nous a demandé de refaire un hommage en live. Donc on sera au Cognac Blues Passion, qui est un gros festival. On sera au Havre aussi cet été. Moi, là, l'idée, c'est pas de monter un cover band, tu vois, un tribute band à Calvin, mais peut-être de jouer cet album un peu sur scène et de pouvoir aussi réunir les artistes qui sont sur cet album.
Comment faire pour...
On va les avoir. On a pris un bus double deck.
Gros line-up à chaque fois, quoi.
Ouais. On va les chercher chez eux. Monte dans le bus, viens, on t'emmène. Direction Cognac, t'occupes de rien. Il y a à manger, il y a à boire dans frigidaire et on va s'occuper de toi. Alors on n'aura pas tous les artistes à chaque fois, mais en tout cas on en a pas mal quand même. On en a pas mal. L'idée c'est d'avoir toujours 5-6 invités par hommage.
Ok.
Voilà.
Et ben je te souhaite une belle journée.
Merci beaucoup. À bientôt les copains.